Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 12 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Washington oblige Boeing à modifier les 737 MAX, mais sans les immobiliser après l'accident mortel d'un appareil de ce type dimanche en Éthiopie.
En Algérie, cédant à la pression de la rue, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé hier à briguer un cinquième mandat.
En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition dissous par la justice en 2018 a porté plainte contre le ministère de la Sécurité, notamment pour assassinat, viol et torture.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les États-Unis vont obliger Boeing à procéder à des modifications du 737 MAX 8 et du 737 MAX 9, mais ne vont pas clouer ces avions au sol, prenant ainsi le contre-pied de pays comme la Chine et l'Éthiopie elle-même après l'accident mortel d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines dimanche au sud-est d'Addis Abeba. Les 155 passagers et membres d'équipage ont tous été tués. Michel Joseph.
L'Agence fédérale de l'aviation, la FAA, un des principaux régulateurs du transport aérien, a demandé hier à l'avionneur américain d'effectuer des changements au plus tard en avril sur des logiciels et sur le système de contrôle MCAS conçu pour éviter les décrochages. Boeing doit également actualiser le manuel destiné à la formation des pilotes. Si nous identifions un problème affectant la sécurité, la FAA prendra des mesures immédiates et appropriées, a répété lundi soir le régulateur. Les autorités américaines se distinguent de la Corée du Sud, de l'Indonésie et surtout de la Chine, grosses clients du 737 MAX 8 qui ont décidé d'immobiliser ces appareils. Les deux boîtes noires de l'appareil éthiopien, l'une contenant les données techniques du vol et l'autre l'enregistrement des discussions et des alarmes dans le cockpit, ont été retrouvées lundi. Cet accident, survenu moins de 5 mois après celui d'un avion du même modèle de la compagnie indonésienne Lion Air, a inquiété les investisseurs. Le titre Boeing a perdu 5,36% à Wall Street. Il est particulièrement rare qu'un nouveau modèle enregistre 2 accidents mortels en peu de temps. Les enquêteurs de l'Agence éthiopienne de l'aviation civile ont été rejoints par une équipe technique de Boeing et par des enquêteurs américains des autorités de l'aviation civile.
Rappelons Idrissa Seydoudia que le bilan du crash d'Ethiopian Airlines est bien de 157 morts.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé hier soir à briguer un cinquième mandat et reporté sine die la présidentielle du 18 avril. Sa candidature, annoncée le 10 février, avait déclenché une contestation inédite depuis sa première élection à la tête de l'État en 1999. Eric Maniraktiza.
Un concert ininterrompu de klaxons dans le centre d'Alger a aussitôt salué l'annonce du président Bouteflika. En référence au surnom donné au président dans une chanson, les Algérois se réjouissaient d'avoir fait tomber pacifiquement ce qu'ils appellent la marionnette. Bouteflika a aussi déclaré que la prochaine présidentielle se tiendra à une date qui sera fixée souverainement par la Conférence nationale inclusive et indépendante, équitablement représentative de la société algérienne. Il a indiqué qu'il restera chef de l'État au-delà de l'expiration de son mandat le 28 avril 2019, et ce, jusqu'à l'élection d'un successeur. Le président Bouteflika a parallèlement nommé un nouveau Premier ministre, Noureddin Bedoui, jusqu'ici ministre de l'Intérieur. Il est secondé d'un vice-premier ministre, poste qui n'était plus pourvu depuis 2012. Vendredi dernier, une marée humaine avait déferlé pour le troisième vendredi d'affilée dans les rues d'Alger et des grandes villes du pays. La mobilisation enflait au fur et à mesure des semaines, en dépit des tentatives d'apaisement du camp présidentiel.
À Djibouti, entretien ce matin entre le président français Emmanuel Macron et son homologue Ismaël Omar Guelleh. Monsieur Macron, qui est arrivé hier soir à Entam ce mardi, son périple en Afrique de l'Est sur la base militaire française de Djibouti, avant de gagner le site des églises enterrées de Lalibela en Éthiopie, joyau menacé du patrimoine mondial que la France veut aider à préserver. La France cherche aussi à garder son influence dans cette région stratégique qui suscite les convoitises des grandes puissances, notamment de la Chine, qui a ouvert en 2017 sa première base à l'étranger.
En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition dissous par la justice en 2018 a annoncé avoir porté plainte contre le ministère de la Sécurité, notamment pour assassinat, viol et torture. Jacques Aristide.
Dans la plainte déposée par le Parti citoyen pour l'innovation, le gouvernement est accusé de détentions illégales, d'agressions physiques avec armes à feu, assassinats et viols. Ce parti allègue que deux de ses militants sont morts en 2018. Des suites de tortures infligées dans un commissariat pour l'un et en prison pour l'autre. Le parti accuse également les forces de l'ordre d'avoir assiégé son siège national et régional à Malabo et Bata, la capitale économique. Un observateur de la politique équato-guinéenne est d'avis que cette plainte n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. En mai 2018, la Cour suprême a condamné à 30 ans de prison 21 de ses militants. Parmi eux figure le seul député d'opposition à l'Assemblée nationale. L'Union européenne s'est inquiétée de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale, tout comme Amnesty International. Le régime du président Teodoro Biangema, au pouvoir depuis 40 ans, est régulièrement accusé de telles atteintes par ses opposants et des organisations internationales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a dit dans un entretien hier avec le Washington Post qu'elle est défavorable au lancement d'une procédure de destitution contre le président Donald Trump, une initiative qui, selon elle, diviserait le pays. Pour Mme Pelosi, une telle procédure diviserait tellement le pays qu'à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment convaincant et accablant et soutenu par les deux partis républicains et démocrates, elle ne pense pas, je cite, que nous devions choisir cette voie car cela divise le pays. Et il n'en vaut tout simplement pas la peine, a-t-elle assuré. En cas d'impeachment à la Chambre, c'est au Sénat qu'il reviendrait ensuite de faire le procès du président. Or, le Sénat est toujours contrôlé par le Parti républicain de M. Trump.
Le gouvernement américain a demandé lundi au Congrès une nouvelle enveloppe de 290 millions de dollars pour concrétiser l'engagement présidentiel à mettre fin à l'épidémie de VIH-SIDA aux États-Unis en 10 ans. Eddie Sango.
Le président américain avait annoncé ses plans lors du discours sur l'état de l'Union au Congrès le 5 février. Le but est de réduire le nombre de nouvelles contaminations de 75% en 5 ans et de 90% en 10 ans par rapport aux quelques 38 000 contaminations annuelles actuellement dans le pays. La demande budgétaire vise à doter la prévention, principalement en augmentant la prise du médicament PrEP par les hommes ayant des relations homosexuelles, 2/3 des infections, et par les autres populations à risque, notamment les Noirs et les habitants des 48 comtés identifiés comme le foyer le plus actif de l'épidémie. Ces médicaments de prophylaxie pré-exposition, un comprimé par jour, protègent presque à 100% d'une contamination par les VIH lors d'un rapport non protégé. Les gouvernements estiment que seulement 10% des gens pouvant en bénéficier le prennent. Les associations ont salué lundi la demande, mais relevé que les gouvernements avaient proposé parallèlement des sabres de budget qui ont aussi un impact dans la lutte contre les VIH.
Au Venezuela, Juan Guaido, le président autoproclamé reconnu par une cinquantaine de pays, a appelé de nouveau à manifester partout dans le pays ce mardi, au cinquième jour de la gigantesque panne de courant qui paralyse le pays, confronté à de graves difficultés alimentaires. De son côté, le président Nicolas Maduro a appelé la population à la résistance active contre les attaques fomentées, selon lui, par les États-Unis, contre le système électrique du pays, afin de préparer, je cite, une intervention militaire.
La première ministre Theresa May a déclaré lundi soir avoir obtenu des garanties légalement contraignantes à l'accord sur le Brexit après des discussions de dernière minute à la veille d'un vote crucial à Londres. C'est cet accord où le Brexit pourrait ne pas se produire du tout, a immédiatement mis en garde le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce mardi, les parlementaires britanniques vont voter pour la deuxième fois sur le traité de retrait après l'avoir massivement rejeté à la mi-janvier.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
La société britannique United Oil and Gas a signé un accord optionnel avec la société américaine Elephant Oil pour un contrat de participation de 20% dans le partage de production dans le bloc d'exploration B situé dans les eaux béninoises. Ecofin, qui révèle cette information, explique que si United choisissait cette option, elle participerait à hauteur de 20% et serait responsable du financement de 30% des coûts non liés au forage et de 20% des coûts de forage. Selon l'accord, United financera des études sismiques passives et des études sur le terrain d'une valeur de 0,18 millions de dollars. Le fonds de pension norvégien, le plus important au monde avec 900 milliards d'euros, retire ses financements au Singapourien Alcyon Agri Corporation, exploitant de l'EVEA au Cameroun. Investir au Cameroun, qui publie cette information, déclare que ce retrait est un appel clair à d'autres investisseurs de se retirer d'Alcyon Agri pour l'empêcher de continuer à s'accaparer des terres, à violer les droits humains des populations locales et à détruire des forêts. Pour terminer, en Afrique du Sud, les régulateurs du secteur énergétique acceptent d'augmenter de 9,41% le tarif électrique pour 2019-2020. Selon Ecofin, cette augmentation sollicitée par Eskom, la compagnie électrique nationale, entre dans le cadre du plan de rééquilibrage des comptes de cette société sur 5 ans et de celui de la détermination multiannuelle du tarif électrique.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Zinedine Zidane revient au Real Madrid.
Oui, 9 mois après sa démission surprise, le technicien français a été rappelé pour remplacer l'entraîneur argentin Santiago Solari, limogé pour insuffisance de résultats. Après avoir remporté 9 trophées sous les ordres de Zinedine Zidane, le Real a laissé partir son meilleur buteur historique Cristiano Ronaldo. Les Merengues ont ensuite sombré dans une fin de cycle avec Rulen Lopetegui, limogé fin octobre au lendemain d'une déroute 5-1 dans le Classico à Barcelone. D'abord nommé comme intérimaire, Santiago Solari a été conforté en novembre, remportant le mondial des clubs. Une semaine noire a néanmoins éloigné le Real de tous les trophées possibles, 2 classicos perdus et une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. À 11 journées de la fin de la Liga, le Real, 3e avec 51 points, va tenter de refaire son retard de 12 points sur le leader Barcelone pour sauver sa saison.
Éliminatoire Cannes 2019, le Ghana sans Diane, mais avec les frères Ayou.
Oui, le sélectionneur des Black Stars, James Kwesi Appiah, a dévoilé une liste de 24 joueurs, dans laquelle on retrouve Kwadwo Asamoah, les frères André et Jordan Ayou, Moubarak Wakaso, Christian Atsou, mais aussi la nouvelle star Thomas Partey. Pas de place en revanche pour le capitaine Asamoah Gyan, qui traverse une saison compliquée avec Kayserispor. Le Nantais Majid Waris, actuellement blessé, manque aussi à l'appel. Jonathan Mensah et Harrison Afoul sont quant à eux laissés à la disposition de leur club puisque la saison vient juste de reprendre ici en MLS. Déjà qualifié, le Ghana achève les éliminatoires de la compétition par la réception du Kenya le 23 mars à Accra avant d'affronter la Mauritanie en amical 3 jours plus tard.
Cyclisme, le parcours du Tour du Cameroun a été dévoilé.
Oui, le peloton aura droit à 8 étapes sur un total de 1140 km. La première ira de Akonolinga en Bang en passant par Abong sur 136 km, tandis que la dernière se disputera de Bafia à Yaoundé 121 km. La plus longue étape de cette édition 2019 se disputera lors de la 5e entre Kribi et Douala, 174 km. La plus courte aura lieu entre Loum Nchang lors de l'acte 7, 112 km. On ne connaît pas encore les équipes participantes, mais pour rappel, le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana a enlevé le maillot jaune l'année dernière. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Cleveland et Toronto 126 à 101, Washington et Sacramento 121 à 115, Brooklyn et Détroit, 103 à 75, Houston et Charlotte, 118 à 106, Oklahoma City et Utah, 98 à 89.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, l'Assemblée nationale se réunit ce mardi à la demande du président Patrice Talon après que l'opposition a dénoncé ce qu'elle a appelé son exclusion du processus électoral. La Commission électorale nationale autonome, SENA, a annoncé la semaine dernière que seuls deux partis membres de la mouvance présidentielle avaient rempli les conditions requises par la nouvelle loi électorale pour pouvoir présenter des listes aux législatives d'avril. L'opposition a organisé hier à Cotonou une marche pour des élections inclusives. Abdourahmane Dia a joint à Cotonou le député et membre de la minorité parlementaire Guy Dossou Mutokpe.
Je dirais que dans l'ensemble, la marche s'est très bien passée. Il y a eu une forte mobilisation. Les Béninois ont entendu l'appel, ils ont compris le message. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, notre souhait, la doléance majeure, c'est que le peuple puisse faire entendre aux dirigeants actuels que nous voulons des élections législatives transparentes, apaisées et des élections inclusives.
Vous pouvez rappeler à nos auditeurs comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que l'opposition ne participe pas aux élections, si la situation actuelle se confirme?
Oui, ce qui se passe actuellement en République de Bénin est inédit, parce que depuis l'historique conférence des forces de la nation de février 90, jamais on a assisté à une élection où l'opposition a été exclue. Et le régime dit de la rupture actuellement en République du Bénin a décidé l'exclusion pure et simple de toute la faction de l'opposition. Donc pour nous,
sur quelle base?
Il est hors de question. Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle charte des partis politiques qui a été votée et un nouveau code électoral qui a été aussi voté et promulgué. Donc tous les partis existants avaient 6 mois pour se mettre en conformité vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques et se mettre en ordre vis-à-vis du code électoral, ce que nous n'avons pas manqué de faire. Je dirais même que les partis d'opposition ont eu des dossiers bien plus conséquents, des dossiers bien ficelés, bien montés comparativement aux dossiers des partis de la mouvance. Mais curieusement, le 18 février 2019, il nous a été notifié que nous n'avons pas reçu les récépissés provisoires qui, curieusement, dans les lois votées, doivent être délivrés par le ministre de l'Intérieur. Mais avant ça, le président de la Cour constitutionnelle a dit que tous les partis en lice pour l'élection législative de 2019 doivent avoir ce qu'ils ont appelé le certificat de conformité. Ce certificat n'est pas légal parce qu'il n'apparaît ni dans le code électoral ni dans la charte des partis politiques.
Alors, le président Talon a demandé à l'Assemblée nationale de se réunir mardi, c'est ça?
Effectivement, le 6 mars dernier, le président a décidé de rencontrer la classe politique, ce qu'il a appelé les partis politiques qui ont exprimé le besoin d'aller à cette élection. Il a convié ces partis politiques en plus du bureau de l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il était navré de constater que nous étions dans l'impasse. Donc pour lui, la solution peut se trouver du côté de l'Assemblée nationale. Donc pour nous, il se pourrait que cet appel du chef de l'État à ce que le Parlement puisse trouver une solution, il se pourrait que ce soit un piège. Nous prenons toutes les dispositions afin que ce qui doit être fait, que l'opposition ne puisse pas pratiquer la politique de la chaise vide.
Le député béninois Guy Dossou Mutokpe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, deux organisations de défense des droits de l'homme se réjouissent de l'aboutissement de la plainte déposée il y a 4 ans à la Cour pénale internationale contre 2 anciens chefs d'État centrafricains et leur chef de guerre, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Après avoir jugé la plainte recevable, la CPI a dépêché à N'Djamena deux avocats pour auditionner les victimes. Notre correspondant sur place, André Kotmadjingar, fait le point.
Ces avocats appuient les responsables des droits de l'homme tchadiens sur de graves exactions perpétrées contre la population centrafricaine entre 2013 et 2014. Ils organisent des séances d'audition avec les victimes afin de prendre en charge leur intérêt dans le cadre de la procédure qui est actuellement pendante devant la CPI et pour laquelle des suspects sont déjà arrêtés. Ce qui permettra donc à ces avocats de remplir les fichiers établis par la greffe de la cour pour pouvoir déposer la plainte en leur nom. Yare Fall, avocat au barreau du Sénégal, inscrit sur la liste des avocats des conseils de la CPI, explique la suite de la procédure.
Après l'audition, nous allons déposer les plaintes au niveau de la Cour pénale internationale. Et le 18 juin prochain, il y a l'audience de la confirmation des charges. Et à cette audience, la Cour décidera si les charges qui ont été retenues sont suffisantes ou non. La compétence de la Cour pénale internationale, c'est quatre choses. C'est les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et les crimes d'agression. Ça, ce sont les crimes les plus graves qui puissent exister. Si vous êtes victime d'un de ces crimes, je ne pense pas que vous puissiez louper de votre vie.
Pour Elisabeth Arabe Sandratana, avocat sur la liste des conseils de la CPI, il est très difficile de parler aux femmes qui sont victimes de ces barbaries.
Quand c'est une personne qui est isolée, c'est plus facile pour elle de parler. Mais c'est quand même très compliqué. Or, on sait très bien, il y a des rapports qui ont été établis, qu'il y a eu énormément de violences sexuelles et de violences contre les femmes. Donc c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Il faut que ces auteurs de ces actes-là sachent que ce sont des criminels contre l'humanité.
Des femmes violées, il y a justement dans les rangs des victimes. Au micro de VOA Afrique, Zulia Ousmane, originaire de Bangui, se rappelle de ce qui lui est arrivé comme c'était encore hier.
Ce sont des armées rebelles, CDK, qui sont venus chez nous. Ils sont trois. Ils ont tapé ma mère avec les ceintures. Ma mère, elle a tombé. Et moi, il y a l'autre qui m'a giflé. Je me suis tombée. Il m'a violée. Quand il s'élève, il y a l'autre qui m'a violée encore. Ils ont gâté ma vie. Deux personnes couchent avec moi. Je ne connais pas où il a le malade ou quoi. Jusqu'à actuellement, moi, je ne suis pas mariée à cause de ce qu'ils m'ont fait.
Qu'en est-il de l'accusation portée contre les militaires tchadiens par certaines organisations internationales et les citoyens centrafricains d'être impliqués dans les violences sexuelles et violences contre les femmes pendant cette période? Le secrétaire général du réseau des ADH du Tchad, Dida Omar Mahamat, répond.
Il n'y a pas de base juridique pour le moment au niveau de la Cour pénale internationale pour dire que l'armée tchadienne a commis des crimes ou un tchadien a commis des crimes. C'est des bruits que j'entends comme vous, donc ça ne me concerne pas tellement.
André Kodmadingar N'Djamena, VOA
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, les employés congolais des commerçants chinois, libanais, indiens et pakistanais ont entamé hier à Kinshasa un mouvement de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger un salaire qui tienne compte du nouveau SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, en vigueur dans le pays. Cette grogne sociale a paralysé les activités dans le plus grand marché de la capitale congolaise, où boutiques, magasins et autres commerces sont restés fermés. Reportage de Thierry Kamoundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est dans cette ambiance que s'est ouvert lundi le marché central de Kinshasa. Près de 200 travailleurs congolais, des sujets chinois, indiens, libanais et pakistanais ont envahi les rues du plus grand marché de la capitale pour réclamer l'application du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, et des meilleures conditions de travail.
Ce qui se passe ici, on a un problème. Le président avait dit notre contrat de SMIG, on devait terminer ça d'ici le mois de janvier. Maintenant, on est en train de comprendre pas. Jusqu'à maintenant, parce qu'on signe un contrat, on est en train de continuer avec le même salaire.
On vous paye combien?
Ça dépend de n'importe quelle société. Il y a des autres, en taux de dollars, ils prennent
150
000 francs.
Les Libanais nous font travailler durement avec un salaire maigre. Chaque jour, nous commençons le travail de 7h du matin jusqu'à 20h et pour ne gagner que 7000 francs congolais. Pas de transport, pas de salaire mensuel, nous sommes des journaliers. Nous voulons que le nouveau président élu
Félix Tshisekedi puisse investir et écouter notre situation. Ces gens nous prennent pour leurs esclaves. Passer de 1680 à 7075 francs congolais, presque 4 dollars américains le jour, le nouveau SMIG peine à être appliqué dans le secteur privé. Atis Kabongo, le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, comprend la gronde sociale et rappelle à tous que force doit rester à la loi.
Le ministère du Travail était au courant de tout ce qui s'est passé au niveau du marché central. Et nous avons tant crié et rappelé tout le monde à l'ordre du respect des engagements que nous avons tous, gouvernement, syndicat, patronat. Nous nous sommes convenus que le salaire minimum interprofessionnel garanti soit respecté. Alors il appartient à tout le monde de le respecter. Et comme il y a certains employeurs qui tardent à le respecter, nous sommes un état de droit. C'est normal que tous ces bénéficiaires puissent revendiquer leurs droits.
Ce mouvement social qui s'observe dans le secteur de l'emploi n'épargne pas les entreprises de l'État. Expert en matière de travail, le professeur Yves-Daniel Ngavan appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités et à montrer l'exemple.
Cette grogne sociale est une conséquence à l'abandon de l'État dans le secteur de l'emploi. L'État a, depuis un moment, a laissé ses secteurs entre les mains de prédateurs en refusant de payer correctement ses fonctionnaires. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre ces secteurs comme priorité.
Les manifestants attendent une solution urgente du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, qui, par ses services, a promis son implication pour une solution urgente à cette crise sociale. Kinshasa, Thierry Kambodi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
En Algérie, confrontée depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter en 5e mandat. Pour comprendre cette décision, Eric Maniraktiza a joint à France l'analyste politique Athanase Karayenga.
C'est une grande surprise, mais en même temps, c'est un très beau cadeau qu'il fait au peuple algérien, parce que c'est la seule solution d'apaisement qu'il pouvait donner. Mais la suite, maintenant, c'est à lui aussi de l'écrire, et avec le peuple algérien, de continuer le processus pacifique et surtout organiser des élections libres, transparentes et apaisées et inscrire l'Algérie dans une perspective démocratique absolument magnifique.
La présidentielle a annoncé de nouvelles réformes, notamment à changer le système politique et élaborer un projet de constitution d'ici à fin 2019. Est-ce que ce n'est pas une manière d'étouffer la contestation pour gagner du temps?
Ça peut être une manœuvre politicienne pour se donner du temps, mais ça peut être aussi une solution tout à fait pacifique et intelligente. On sait que la révision constitutionnelle, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut provoquer beaucoup de débats, de controverses. Et à mon avis, le plus simple, ça serait d'organiser les élections le plus rapidement possible avec la constitution telle qu'elle est, mais s'assurer que ces élections sont faites dans des conditions de transparence, de crédibilité et d'apaisement. La réforme constitutionnelle, à mon avis, n'est pas une urgence absolue.
Nesbunta, comme le surnomme le peuple, accepte de partir. On se rappelle du noyau dur du fameux clan d'Oujda. Est-ce que les durs ne veulent pas finalement le temps d'organiser une transition parce qu'ils n'ont jamais vu venir la contestation?
C'est peut-être le calcul du clan et de ceux que vous appelez les durs. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer en Algérie. Le mouvement pacifique, démocratique qui émerge, qu'on voit dans les rues, il est préparé depuis des années par la société civile, il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de journalistes, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'organisateurs de femmes qui travaillent dans la discrétion, dans l'ombre, même dans la suspicion du pouvoir et dans la menace du pouvoir. Mais l'Algérie, elle est vivante depuis, il y a un ferment qui fait bouger la société. Et je crois que l'armée pourra continuer son mouvement et continuera à calmer les urs et puis surtout à donner des gages à la population que son message a été entendu, que son message d'une marche pacifique, démocratique vers une Algérie plus prospère et plus ouverte, et ce message il est entendu par l'armée.
Joint en France, l'analyste politique Athanase Karayenga. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Idriss Assane.